18h en temps universel, 9h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour à tous. Dans 10 minutes, votre émission Appel sur l'actualité, analyse, décryptage. Nous répondrons à vos questions au sujet des faits marquants qui ont retenu votre attention. Dans 40 minutes, vos réactions dans le débat au sujet des conclusions des Assises nationales de la refondation au Niger. Mais tout de suite, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Damoury Dosso et à tout de suite pour Appel sur l'actualité. Mais pour l'heure, nous serons à Washington au lendemain de la première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump depuis le retour du républicain à la Maison Blanche. De franches poignées de main devant les caméras, mais de fragiles discussions en coulisses. Les deux chefs d'État sont d'accord pour une trêve en Ukraine, reste à savoir à quel prix. En Syrie, suite du dialogue national, 4000 personnalités sont venues à Damas de tout le pays, mais pas les Kurdes, pas invités, ce qui pose question. Les 27 pays de l'UE se sont entendus pour rompre le dialogue politique avec Kigali sur les questions de sécurité et de défense. Enfin en France, la filière bio est en crise et veut se refaire la cerise au salon de l'agriculture. Nous voulons la paix en Ukraine, ont dit de concert Emmanuel Macron et Donald Trump. Reste à savoir à quel prix. Le président français se rendait pour la première fois à la Maison Blanche depuis le retour du républicain au pouvoir le 20 janvier dernier et a déclaré qu'une trêve en Ukraine pourrait être conclue dans les semaines à venir. Nous nous sommes compris, a-t-il dit, sans beaucoup plus de détails, alors que les Européens craignent depuis plusieurs semaines un accord trop favorable à la Russie. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Ils ont passé une bonne partie de la journée ensemble dans le bureau ovale. Après quelques jours tendus, où il a notamment accusé Volodymyr Zelensky d'être un dictateur sans élection qui a commencé la guerre, Donald Trump annonce une rencontre prochaine avec le président ukrainien et l'imminence d'un accord qui donnerait aux États-Unis un accès aux ressources minières ukrainiennes. Bref, de quoi créer un lien économique qui garantirait l'intérêt américain dans le maintien de la paix, selon Emmanuel Macron.
Ce que vient de dire à l'instant, le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares. Et c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose.
Dans ces conditions, certains pays européens sont prêts à envoyer des soldats pour participer au maintien de la paix. Mais l'engagement de Donald Trump pour soutenir ce dispositif est encore un peu flou.
Les pays européens seront impliqués, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de trop d'appui. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Une fois qu'un accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires, et l'Ukraine et l'Europe aussi, et je ne pense pas qu'il y aura de problème.
Il reste encore beaucoup de discussions à mener, mais la partie française estime qu'elle a fait entendre clairement son message. Guillaume Nona, Washington. RFI.
Vladimir Poutine a lui aussi pris la parole ce lundi. Il a affirmé que les Européens, mis de côté dans le dossier ukrainien ces dernières semaines, pourraient participer au règlement du conflit. L'Union européenne suspend ses sanctions contre la Syrie, décision saluée par Damas, qui voit une étape vers l'atténuation des souffrances des Syriens. Sanctions économiques levées, alors que se poursuit aujourd'hui le dialogue national dans le pays. Nouvelle étape dans la transition, conférence qui a démarré hier dans la capitale. Plusieurs ateliers de discussion sont encore prévus ce mardi, notamment sur les libertés individuelles et sur les droits de l'homme. Plus de 4000 personnes sont venues de tout le pays, mais l'exclusion des Kurdes des discussions suscite des réserves. Mohamed Erami.
Après que le comité préparatoire a rencontré plus de 4000 personnalités dans différentes provinces de Syrie, la conférence pour le dialogue national syrien démarre sous l'attente et l'optimisme populaire quant à ses résultats pour l'avenir du pays, comme l'affirme Nahla, une avocate trentenaire, et Saïd, un commerçant quadragénaire rencontré à Damas.
Le plus important est que le résultat soit en accord avec la situation du pays et du peuple, et qu'aucune décision ne soit prise qui nuise aux Syriens ou pèse sur leur vie quotidienne, car nous en avons assez après 14 ans de crise.
En fin de compte, ce qui nous importe, c'est de ressentir une stabilité sécuritaire, économique et sociale, et que tout le monde obtienne ses droits dans le pays, que ce soit les chrétiens ou toutes les autres communautés syriennes.
Cet optimisme est également partagé par les politiciens et les experts, à l'image d'Anwar Amo, professeur de sciences politiques à l'université de Damas. Toutefois, il reste mesuré, car le gouvernement provisoire a exclu les Kurdes de la conférence, alors qu'ils constituent un élément clé de la société.
Le timing était surprenant et la conférence n'a pas été annoncée à l'avance. Même les invitations n'ont pas été envoyées avec un délai suffisant. Le plus long étant d'un jour seulement, sans prendre en compte le fait que de nombreux Syriens sont dispersés à travers le monde.
Selon l'ordre du jour de la conférence, les participants discuteront en une journée des questions relatives aux libertés publiques, à l'économie, à la déclaration constitutionnelle et à la justice transitionnelle. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
Toujours au Proche-Orient, le djihad islamique accuse Israël de vouloir annexer la Cisjordanie occupée. L'armée de l'État hébreu qui s'est déployée, des chars sont entrés dans le territoire pour la première fois depuis des années. Offensive majeure israélienne qui a mené au déplacement de dizaines de milliers de personnes, notamment dans le camp de réfugiés de Jenin. L'armée israélienne qui dit également avoir mené une frappe dans la bande de Gaza en réponse à un tir de roquette. La trêve qui reste donc très fragile, Israël refusant toujours par ailleurs de libérer les 602 détenus palestiniens qui devaient être relâchés samedi dernier. RFI 9h05 à Bruxelles, première sanction de l'Union européenne contre le Rwanda ce lundi. Les 27 ministres des Affaires étrangères réunis dans la capitale belge ont décidé de rompre le dialogue politique avec Kigali sur les questions de sécurité et de défense. Il s'agit des toutes premières sanctions depuis les chutes de Goma et de Bukavu dans l'est de la RDC, prises par le M23, soutenues par le Rwanda. La diplomatie européenne qui est enfin à l'œuvre dans le dossier de Pierre Benazé.
Le dialogue politique de sécurité et de défense entre l'Union européenne et le Rwanda est désormais suspendu. C'est la première décision commune prise par les 27 pays de l'Union européenne depuis la chute de Goma aux mains des M23 appuyés par les forces rwandaises. La Belgique avait la première appelée à couper tous les programmes de coopération et de soutien entre l'UE et le Rwanda, une position désormais approuvée par la France, qui a participé activement à l'élaboration d'une liste de sanctions plus précise, une liste qui comprend une entité frappée du gel de ses avoirs en Europe et 9 responsables rwandais frappés en outre d'une interdiction de séjour dans l'UE. C'était le deuxième étage de la fusée des sanctions à l'encontre du Rwanda, mais l'adoption en a été bloquée par le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel. Il a obtenu de ses homologues d'attendre le résultat de la réunion ministérielle conjointe du 28 février de la Communauté de développement d'Afrique australe et de la Communauté d'Afrique de l'Est. Les Européens menacent par ailleurs aussi de mettre fin au partenariat avec le Rwanda sur les matières premières critiques et les minerais rares. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
La première ministre congolaise, Judith Suminwa, était-elle à Genève, en Suisse, devant le Conseil des droits de l'homme. Elle a avancé le chiffre de 7000 morts depuis le mois de janvier dans l'est de la RDC. Pour la plupart des civils, morts dans les combats entre la FRDC et le M23, puis par les soldats rwandais. À Rome, dernière chance pour la COP16 après l'échec de Cali en Colombie. Nouvel essai dans la capitale italienne pour la suite de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Dernière chance surtout pour dénouer le blocage entre les pays du Nord et ceux du Sud sur les questions de financement pour stopper les destructions de la nature d'ici 2030. En France, Joël Le Scouarnec reconnaît des actes odieux, des blessures ineffaçables et irremplaçables. Cet ancien chirurgien est jugé depuis ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, dans l'ouest du pays, pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients, pour la plupart mineurs, au moment des faits. Faits qui ont eu lieu entre 1989 et 2014. Il s'agit du plus grand procès pour pédocriminalité de l'histoire du pays. Procès qui se poursuit aujourd'hui et qui pourrait durer jusqu'au mois de juin. Et puis on termine ce journal au Salon de l'agriculture où le bio cherche sa place. La filière est en crise. Même si un objectif de 21% de surface agricole biologique d'ici 2030 a été réintroduit dans la dernière loi d'orientation agricole, manque de subventions et lourdeurs administratives sont pointés du doigt par les professionnels du secteur. Linda Rousseau.
Caché au milieu des géants céréaliers, le petit stand de Marcel Bio, Sandy Jaffreno vend soupe et jus de saison. Pour survivre face au manque de financement, les producteurs ont fait des choix difficiles.
On a choisi de pas augmenter nos tarifs pour continuer de pouvoir proposer justement nos jus et nos soupes.
Le prix, c'est souvent ce qui est reproché aux produits bio, mais pour Stéphanie Martins, maraîchère, les consommateurs sont là.
Il suffit juste d'aller les chercher et d'aller les informer.
Une volonté politique, c'est ce qu'attend Philippe Camuret, le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. En 2022, la loi Egalim prévoyait 20% de produits bio dans la restauration collective. Aujourd'hui, on est à 6%.
Du bio dans la cantine, c'est pas compliqué. On a vu que c'était pas plus cher.
La loi d'orientation agricole est elle aussi critiquée par les associations environnementales. Elle ouvre la porte à l'utilisation de produits phytosanitaires potentiellement dangereux pour la santé si les agriculteurs n'ont pas d'autres alternatives. Un non-sens pour Laure Verdeau, directrice de l'agence bio.
C'est parce que justement, quand on est mieux-disant et qu'on interdit, qu'on est obligé d'innover sous la contrainte et les bio se passent de toute la chimie synthétique.
Cette loi prévoit aussi le renouvellement des générations et pour Laure Verdeau, le meilleur moyen d'attirer les jeunes, c'est le bio.
Un reportage dans les allées du salon, signé Linda Rousseau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Moi, je vous laisse avec Nemo Ridosso pour Appel sur l'actualité.
Merci Martin. C'était le journal international en compagnie de Martin Guèze.